comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Le début d'année est en général propice aux bonnes résolutions. 7 Français sur 10 se fixent des objectifs, arrêter de fumer, faire du sport ou encore manger plus sainement. Malheureusement, la volonté s'effrite à la vitesse grand V et au final, 5% seulement de ces mêmes personnes atteignent leurs objectifs. Comment se reprendre en main? Pourquoi l'hygiène de vie est-elle capitale pour la santé? Comment avoir une maison saine, mieux dormir, voir la vie en rose, améliorer son alimentation, éviter grippe et gastro, bref, comment être en bonne santé toute l'année, bien dans sa tête et dans son corps. Notre invitée, spécialiste en médecine préventive, a plein de conseils astucieux et parfois surprenants à vous donner. Docteur Frédéric Salmane, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Vital, votre bible santé aux éditions Albin Michel, un livre sans tabou dans lequel vous donnez bien plus que 10 commandements à respecter. Suite logique de votre premier best-seller, Le meilleur médicament, c'est vous. Et du deuxième, Votre santé sans risque, on vous retrouve dans un instant. Dans 20 minutes, nous irons au Burkina Faso retrouver le docteur Jean-Emmanuel Yameogo, médecin généraliste en chirurgie orthopédie traumatologie au CHU Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou. Et puis en fin d'émission, nous parlerons de la 23e journée de prévention du suicide avec le docteur Marc Filâtre, psychiatre et président de l'UNPS, l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide. Si vous avez des questions pour le docteur Frédéric Salmane, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Salmane, d'abord une mise au point. Ce livre ne peut pas remplacer une consultation chez le médecin. Les conseils que vous donnez ne visent pas à soigner une quelconque maladie. En revanche, ils peuvent permettre de ne pas tomber malade.
Oui, l'objectif, c'est de passer au travers. Vous savez, à partir de 40 ans, c'est un vrai champ de tir, il y a des balles traçantes dans tous les coins. Et donc, si on a un bon système d'hygiène, eh bien, on chute considérablement les risques. C'est l'objectif de ce livre.
Vous trouvez que nous avons encore beaucoup de progrès à faire par rapport à notre mode de vie ?
D'énormes progrès. Vous savez, à une époque, les gens disaient « Oui, mais mes parents, mes grands-parents ont vécu 100 ans, je suis tranquille, je peux faire n'importe quoi. » Eh bien, on s'est aperçu que la génétique, ça pèse pas beaucoup. 15% seulement.
Donc, ça veut dire qu'on a une large marge de manœuvre.
En fait, on peut modifier l'expression de mauvais gènes ou de bons gènes selon notre mode de vie. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est une grande découverte. On s'aperçoit qu'en fait, on peut prendre notre santé en main, et c'est nous-mêmes qui avons les cartes en main. En étudiant des vrais jumeaux, l'un ayant une vie saine et l'autre, il ne fait pas de sport, il est gros, il fume, etc. La durée de vie en bonne santé n'a rien à voir. Donc, c'est à nous de jouer.
Vous avez un leitmotiv quand même qui revient tout au long de votre livre. Il faut rester à l'écoute de son corps.
Oui, vous savez, il faut du bon sens. Il faut écouter avec bon sens les signaux. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est un symptôme, un médicament. J'arrive pas à dormir, un somnifère. Je suis triste, un antidépresseur. Je suis constipé, un laxatif. J'ai faim, je mange. Eh bien, on a fait une découverte sur la faim. Quand vous avez faim, eh bien, on stimule de la gréline, qui est l'hormone de l'appétit. Et on vient de découvrir que cette même gréline qui donne faim, elle a d'autres fonctions. Elle stimule l'autophagie. Qu'est-ce que c'est? C'était récompensé par un prix Nobel il y a 3 ans. C'est le système de détox express, de nettoyage de l'organisme, de purification. On élimine les vieilles cellules malades, mal formées, trop usées ou mortes, qui génèrent des maladies. Eh bien, cette gréline a un pouvoir de nettoyage.
Donc ça veut dire que quand on a faim, il ne faut pas manger tout de suite.
Non, la faim fait du bien. Et en plus, elle stimule l'hormone de croissance, c'est un système anti-vieillissement. Donc vous avez faim, attendez au moins 20 minutes en ayant faim. Et à ce moment-là, vous faites une petite cure détox express. Et ce qui est passionnant, c'est que, alors pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est le jeûne.
Oui, alors vous, vous êtes un adepte du jeûne séquentiel.
Séquentiel, je vais raconter ce que c'est. Vous décidez, pendant 14 heures, de ne pas manger, s'il n'y a pas de contre-indication de votre médecin. Vous ne mangez pas, vous buvez de l'eau, des tisanes, du thé, le tout sans sucre et sans édulcorant. Et bien quand on fait ça, on s'est aperçu que ça donne le teint plus clair, on est plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme. Pourquoi ? À chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le problème, c'est que quand on avance en âge, le nombre d'erreurs de copie augmente, qui peut donner lieu à des cancers. Quand on jeûne, on renforce son ADN, il y a moins d'erreurs de copie, moins de maladies. D'ailleurs, c'est intéressant parce que toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne, comme un message du fond de la nuit des temps. En fait, à ce moment-là, on réactive une mémoire biologique ancienne. On lutte contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps le temps de se réparer, de régénérer. Vous savez, manger, c'est pas rien, c'est activer des hormones, des enzymes, faire travailler le foie, les reins, une vraie usine. Il faut laisser poser. Vous savez, nos ancêtres, il y a encore un siècle, étaient à un repas par jour, parfois deux, pas trois, pas quatre. On ne sait pas gérer ça.
Alors justement, on a beaucoup de questions pour vous, docteur Salman, et on a Oumi qui nous attend au standard. Bonjour Oumi.
Bonjour Chantal,
bonjour Oumi.
Alors vous nous appelez de Dakar, on vous écoute, oui. On vous écoute, docteur Salman voilà. Vous écoute.
Voilà, donc moi je suis étudiante, donc pour aller à l'université, j'y allais très tôt, sans prendre le petit déjeuner, et au retour aussi, j'étais tellement fatiguée que je prenais le dîner, puis j'allais directement dormir. Donc j'ai deux questions. La première, c'est si le petit déjeuner est aussi obligatoire qu'on le dit. Et la seconde, si c'est dangereux de dormir, de manger et juste après d'aller au lit.
Alors vous aviez commencé à parler des trois repas par jour, donc ce n'est pas obligatoire.
Non, le point essentiel, c'est que souvent les gens, il faut boire beaucoup d'eau. Parfois, si vous oubliez de boire abondamment, vous allez être fatigué, avoir du mal à vous concentrer. Et c'est pas que vous avez faim. C'est que tout simplement, vous manquez d'eau. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut écouter avec bon sens si vous avez faim ou pas. Il ne faut pas se mettre à table si on n'a pas faim. Si vous n'avez pas faim, le matin, ça ne sert à rien de se forcer. Buvez bien. Et d'ailleurs, il y a même une étude intéressante sur le café. Vous savez, souvent on dit qu'il faut prendre un café le matin quand on se lève. Ce n'est pas le bon moment.
Oui, il faut attendre la fin de matinée plutôt. Pourquoi ?
Il faut le prendre en fin de matinée vers 11h parce que quand on se lève à 8h, le cortisol, c'est l'hormone qui donne la pêche, est au maximum. Donc quand on prend du café en même temps, c'est double effet pour rien. Et à 11h, quand il y a le coup de pompe, on n'a pas le café. Il vaut mieux le prendre vers 11h. À ce moment-là, il fera beaucoup plus d'effet.
Oui. Et vous parlez aussi, il y a une chose amusante dans votre livre, vous parlez du sniff de café. Vous pouvez raconter ?
Oui, parce que l'odeur, on s'est aperçu avec des étudiants que rien que l'odeur de café stimule déjà intellectuellement. C'est intéressant. Et l'arabica pour mémoire, c'est le café qui est le mieux pour la mémoire.
Voilà, donc finalement le café est bon pour la santé si on n'en abuse pas ?
Alors attendez, oui, non. À 3 tasses par jour, 4 maximum, oui, on s'est aperçu que ça peut intervenir dans la prévention de certains cancers. Mais quand on passe à 6, ça peut augmenter certains cancers. Et puis pour les gens qui prennent beaucoup, beaucoup de café, ça relâche un peu le sphincter anal et ça peut donner des fuites. Pas terrible.
Oumi, vous aviez donc une deuxième question. Est-ce qu'on peut aller dormir juste après,
après avoir dîné ?
Alors, il ne faut pas se coucher juste après parce que tout simplement, vous risquez d'avoir des reflux acides. Il faut laisser, vous savez, c'est du bon sens. Les aliments tombent dans l'estomac. Il faut le temps que ça se vidange un petit peu. Sinon, si vous vous couchez tout de suite, vous risquez d'avoir des aliments qui remontent un petit peu, et d'avoir des brûlures gastriques au niveau de l'œsophage. Donc, il faut attendre quand même 2 heures, entre le moment où vous dînez et vous couchez, parce que sinon, vous risquez d'avoir une digestion perturbée.
Merci beaucoup, Oumi, de nous avoir appelé. Bonne journée à Dakar. Docteur Salman, votre dada dans ce livre, c'est l'hygiène, avec des conseils qu'on est censé connaître, mais qu'il est bon de rappeler, et d'autres un peu plus étonnants, on va y venir. Globalement, donc, vous estimez qu'on méconnaît ou qu'on néglige des gestes élémentaires d'hygiène ?
Oui, on se rend malade pour rien, parce que si on connaît ces règles d'hygiène, il y en a énormément, ben on passe au travers de bien des maladies. Donc, elles sont plus enseignées. Vous savez, dans les années 60, on a arrêté d'enseigner l'hygiène parce qu'il y avait des antibiotiques. Erreur. C'est toutes ces petites règles d'hygiène sont en fait un bouclier incroyable de protection.
Alors nous sommes actuellement en France en pleine épidémie de grippe. La gastro-entérite, en général à cette époque, n'est pas loin. Votre conseil de base, c'est se laver les mains et surtout les ongles, que vous qualifiez de ménagerie.
Oui, parce que alors se laver les mains, c'est important. En sortant des toilettes, avant de passer à table, avant de se coucher, oui, essentiel. Mais aussi important, et je dirais capital, les ongles. Quand on se lave les mains, il y a un petit peu d'eau qui passe sous les ongles. Et c'est le paradis des microbes pour se développer. Ils ont de l'humidité, ils ont du temps, ils sont planqués. Et on s'est aperçu que les gens qui ont des ongles sales, comme on se met deux fois par an les mains à la bouche ou qui se dérongent, on trouve dans leur bouche plein d'entérobactéries. Qu'est-ce que c'est? Ces bactéries qu'on trouve dans le caca, dans les selles. C'est pour ça que ces gens ont mauvaise haleine. Donc tous les soirs, avant de vous coucher, il faut se brosser les ongles, moi je dis avec une brosse à dents, mais pas la même que pour les dents,
évidemment.
Une couleur différente. Et ça évite aussi d'avoir parfois de l'ensemencement au niveau vaginal par des ongles sales. Donc c'est un geste simple, mais des ongles propres c'est essentiel. D'ailleurs au bloc opératoire, on se lave les mains, mais on insiste beaucoup pour se brosser les ongles. Il y a encore une vingtaine d'années, il y avait partout des petites brosses pour se nettoyer les ongles partout, elles ont disparu.
Alors nos grands-mères l'utilisaient et on le redécouvre aujourd'hui, on redécouvre les vertus du vinaigre blanc. Il peut vraiment remplacer tous les produits ménagers?
C'est un produit simple, sain, efficace. Et moi j'aime bien parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. C'est très sain.
Alors on peut l'utiliser dans la salle de bain notamment?
Salle de bain, même pour nettoyer votre frigo, deux fois par mois. Ça évite que des germes comme l'hystéria qui se développent. C'est un nettoyant pas cher et efficace.
Et dans la salle de bain, vous recommandez de nettoyer le pommeau de douche au vinaigre blanc. Pourquoi?
Le pommeau de douche, c'est important parce qu'il y a plein avec de l'eau, beaucoup de microbes qui se développent dans le pommeau de douche. Donc en fait, on se prend une douche avec de la crasse. Une fois par mois, mettez-le dans du vinaigre blanc, ça nettoie, ça marchera mieux et vous nettoierez beaucoup mieux sous la douche.
Et puisqu'on parle de salle de bain, on ne lave pas assez les tapis de bain?
Ah oui, parce que ça devient des vrais aéroports à microbes. Il faut jamais rentrer dans la maison avec les chaussures. Vous les enlevez. Et dans la salle de bain, où on marche pieds nus, il faut laver le tapis de bain toutes les semaines.
Alors, il faut aussi se méfier des paillassons, des aéroports à microbes, paradis des bactéries, comme le démontre une étude scientifique très sérieuse.
Oui, on a fait une étude sur le paillasson. Et alors, première constatation, les gens le nettoient jamais, le lavent jamais. Résultat, il vaut mieux passer à côté du paillasson, c'est beaucoup plus propre que sur le paillasson où on se salit abondamment les chaussures. Et faites comme au Japon, enlevez vos chaussures en rentrant à la maison.
Alors, autre grand oublié de l'hygiène, nos smartphones et nos claviers d'ordinateur.
Oui, c'est très crasseux. Vous savez, on ne mange pas tous les jours dans la même assiette, on ne met pas tous les jours, j'espère, le même slip. Et bien, tout simplement, tous les jours, avec un objet aussi familier qu'un clavier d'ordi ou un smartphone, nettoyez qu'une petite lingette, que ce soit propre, avec ce que vous pouvez. Mais c'est un geste simple qui évite, quand vous postillonnez sur tout ça, d'avoir une vraie ménagerie qui va un jour vous rendre malade.
Et les cravates?
Je déteste.
D'ailleurs, vous n'en avez pas?
Oh, j'en ai pas. D'ailleurs, à l'hôpital, on vous demande d'éviter d'en porter. Parce que quand vous penchez sur un patient, vous pouvez transporter des microbes de l'un à l'autre avec la cravate. Deux études. D'abord, on s'est aperçu que c'est un paradis de microbes. Et d'autre part, quand on serre une cravate, ça diminue la circulation cérébrale, ce qui est pas terrible.
Alors, il y a un ennemi qui sait bien se cacher dans la maison, c'est la poussière. Et on apprend dans votre livre que la poussière fait grossir. Pourquoi?
Oui, alors ça, c'est une étude qui m'a énormément surpris, qui a été réalisée aux États-Unis. On s'est aperçu que dans les maisons très poussiéreuses, dans la poussière se logent tous les produits chimiques d'entretien, tout ce qui est en suspension dans l'air, et que ça stimule les cellules graisseuses. Donc une maison propre, on respire mieux et on grossit moins.
Et donc pour avoir une maison saine, il faut aérer même quand il fait un froid glacial à l'extérieur?
Toujours aérer. Sinon, vous avez...
Combien de temps par jour?
Un quart d'heure, au moins toutes les 6 heures, pour éviter de dormir et de vivre dans un air vicié.
Docteur Salman, on va retourner au standard où El Hadji Ibrahima nous appelle de Dakar. Bonjour.
Bonjour.
Eladji, on vous écoute. Vous pouvez poser votre question au docteur Salman.
Bonjour Eladji.
Oui, bonjour professeur Frédéric. Bonjour Chantal. Moi, mon problème, j'avais trois questions à poser.
Ah bon, on va commencer par la première, d'accord?
Voilà. Quelles sont les causes et les symptômes du manque de sommeil?
Alors, les symptômes, très simples. D'une part, c'est un manque de concentration, un côté anxieux, un peu dépressif, et une tendance à manger tout ce qu'on a sous la main pour essayer de tenir, donc on grossit aussi.
Pourquoi vous posez cette question, Eladji? Vous avez un problème de sommeil?
Oui, j'ai un problème de manque de sommeil, oui.
Parce que vous êtes ambulancier et vous travaillez la nuit?
Ah oui, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Je travaille la nuit, bon, c'est intermittent, quoi. Pas tout. Mais même à mes jours de repos, je m'arrive même pas à dormir à la maison.
Alors vous prenez des médicaments pour dormir?
Pour dormir, bon, pas tous les jours. Il m'arrive tout souvent de prendre des médicaments pour dormir, oui, des somnifères.
Et ça vous donne la migraine aussi, ce manque de sommeil, c'est ça?
Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça.
Alors, comment on peut trouver le sommeil sans abuser des médicaments?
Bon, alors, il y a énormément de moyens. Je ne vais pas avoir le temps de tous les décrire, j'en donne deux comme ça. Premier point, il faut s'arranger qu'il fasse le plus frais possible. Et si possible, prendre une douche froide avant de dormir. Quand on baisse la température...
Et ça ne réveille pas de prendre une douche froide avant de dormir?
Non, au contraire, ça endort. Quand vous chutez d'un demi-degré. Donc, soit vous mettez... Alors, un autre petit truc, mettez votre oreiller au frigo, dans un plastique. Sortez-le et endormez-vous sur un oreiller très froid. Mettez un masque d'avion sur les yeux. La moindre petite lumière, la moindre petite diode empêche de faire un sommeil de qualité. Noir complet, dormir nu, et le maximum de fraîcheur dans la chambre, quitte à prendre une douche froide, quitte à mettre son oreiller au frigo. Il y a encore plein de petits moyens.
Ibrahima, vous avez une dernière question pour le docteur Salman, ou est-ce qu'on a répondu à vos préoccupations?
Je vais sauter la deuxième question parce que ça a été répondu.
D'accord, alors la troisième, allez-y.
Bon, quelle est la différence entre l'insomnie et la maladie du sommeil?
Alors, la maladie du sommeil, c'est une pathologie où les gens n'arrivent pas du tout à dormir, qu'on prend en charge à l'hôpital. Et c'est tout le temps. L'insomnie, c'est pas tous les jours. Et les gens arrivent quand même à dormir. C'est deux choses complètement différentes.
Merci beaucoup, Ibrahima, de nous avoir appelé. Bonne journée à Dakar. On va prendre Adama à Abidjan. Bonjour, Adama.
Bonjour, Chantal. Bonjour, docteur.
Bonjour.
En fait, moi, je suis un ancien fumeur. J'ai commencé à fumer à l'âge de 15 ans et j'ai arrêté à l'âge de 23 ans. J'ai repris 7 ans plus tard. Et en fait, je reprends, je fume, j'arrête, je reprends. Je n'arrive pas à arrêter sur une très très longue période. Donc la question que je voudrais poser, c'est de savoir quelles sont les astuces que vous pourrez me donner pour que je puisse arrêter de fumer définitivement sans avoir envie de reprendre.
Docteur Salman.
Vous avez raison d'arrêter de fumer, parce que le tabac, il n'y a pas de semaine où à l'hôpital je ne vois pas des drames avec le tabac. Des cancers, de la gorge, des poumons, de la vessie, des infarctus, des accidents, des hémiplégies. C'est un carnage, le tabac. Il faut arrêter par tous les moyens. Et on s'est même aperçu qu'une seule cigarette, déjà, fait beaucoup de dégâts par jour. Donc, dès qu'on met le doigt dans le tabac, on perd des années de vie en bonne santé tout de suite. Alors, pour arrêter de fumer, moi, personnellement, j'ai tendance à adresser à des gens qui font de l'hypnose. Et je me suis aperçu qu'il y a d'excellents résultats avec ça.
Vous seriez prêt, Adama, à tenter l'hypnose?
Oui, je suis prêt, mais je doute que je puisse avoir des hypnotiseurs ici à Abidjan.
Ah, peut-être, il faut peut-être vérifier. Je peux pas vous répondre non plus, mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour réussir à arrêter de fumer. Merci Adama de nous avoir appelé. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale avec Anthony Hamilton, Ain't Nobody Worrying.
No matter what the people say, I can't let go. I can't let go. No.
know is made from love, and they can never stand in our way. We made a vow to love. No one has the right to tear my love down.
No matter what the people say, no, I'm gonna love you anyway. You are my life, I can't let it go. Even if we fuss or fight, try to get it right.
Get it right.
You are my life, I can't let it go. Even if we disagree, you can put it all on me.
Say that a love like ours won't last. God made no mistakes when he sheltered me with your heart. There's no safer place than to be in love, and here I will stand. And there ain't gonna never ever leave you.
Say I'm gonna love you anyway.
No matter
you
what the
life,
people say,
I can't let go. Even if we fuss or fight,
even
try
if we
to get it right.
Whoa,
you are my life, I can't let go. Even if we disagree,
even
you
if
can
we
put
disagree,
it all on me. If you are my life, I can't let you go.
No,
Ain't Nobody Worrying, Anthony Hamilton sur RFI dans Priorité Santé. Nous sommes toujours avec le docteur Frédéric Saldmann, dont nous feuilletons le dernier livre, Vital, votre Bible santé, aux éditions Albin Michel. Lorsqu'on a un rhume, docteur Saldmann, comment déboucher son nez? Vous avez une meilleure solution que les gouttes et les comprimés?
Oui, c'est vrai que quand on est enrhumé, je préfère éviter de prendre des comprimés parce que ça peut avoir une incidence notamment au niveau des vaisseaux. Certains peuvent même jouer sur l'hypertension artérielle. Donc il y a des petits moyens tout simples. Il y en a un premier qui est simple, c'est de manger pimenté. Vous allez voir, ça débouche tout de suite.
Quelles épices?
Alors tout ce qui est fort, que vous trouvez très piquant, ça marche. De la harissa, ce que vous voulez, vous verrez, ça marche tout de suite. Les rapports sexuels aussi débouchent le nez. Et également, si vous appuyez avec votre pouce sur la ligne des sourcils au milieu, vous débouchez le nez également.
Mais pourquoi est-ce que le nez bouché disparaît lors d'un rapport sexuel?
Parce que simplement, ça crée des changements. Quand vous avez un rapport sexuel, c'est en fait, beaucoup de choses se mettent en route. D'une part, vous sécrétez des hormones du bonheur, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et au niveau de la vascularisation, ça provoque des afflux de sang dans certaines zones et moins dans d'autres. Donc en définitive, ça crée des phénomènes vasomoteurs, ce qui fait que des gens, vous avez observé, pendant les rapports, peuvent avoir des rougeurs. C'est simplement que ça fait un chamboulement. Et vous savez que les rapports sexuels, c'est excellent pour la santé.
Ça fait gagner l'espérance de vie.
12 rapports sexuels par mois, hommes comme femmes, augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé.
C'est prouvé scientifiquement.
Absolument. On sait pourquoi. La masturbation marche pas, par contre. Vous savez pourquoi? Parce que pour sécréter ces hormones du bonheur qui sont protectrices, tiens, essayez de vous chatouiller vous-même. Ça donne rien.
C'est vrai.
Si quelqu'un vous chatouille, vous riez. Eh ben, c'est très simple. Ces rapports sexuels réguliers baissent le stress, diminuent les risques cardiovasculaires. Chez l'homme, ça baisse les risques de cancer de la prostate. Et chez la femme, les risques de cancer du sein. Chez la femme, on s'en est aperçu parce qu'on a étudié dans les couvents les sœurs et elles se sont aperçues qu'elles ont plus de cancer du sein que les autres parce que bien sûr, elles n'ont pas de rapport sexuel. Donc la sexualité, c'est très important, qu'il faut maintenir tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour maintenir une bonne sexualité jusqu'à 100 ans.
Et alors vous vantez, par exemple, faites l'éloge des vibromasseurs. Pourquoi ?
Ah oui, bah, le vibromasseur, c'est une bonne chose. Vous savez, en médecine, il n'y a pas de tabou. Parce que tout simplement, il arrive que le vagin, à un moment donné, en particulier vers la ménopause, peut devenir un petit peu moins de lubrification, un peu plus fibreux. Et le fait de stimuler, bah, c'est comme un petit gym tonique. Ça va sécréter, augmenter les sécrétions, augmenter la musculation. Et ça fait beaucoup de bien, il n'y a aucun tabou, c'est bien, dans la mesure où la personne y éprouve du plaisir. Il ne faut pas prendre ça comme un médicament. Mais c'est quelque chose de ludique, c'est la sexualité, ça doit être joyeux, c'est drôle. Ça permet de lâcher prise. Beaucoup, vous savez, il y a deux systèmes. Le système sympathique, c'est on travaille, on est concentré, etc. On ne pense pas au sexe. Parasympathique, c'est l'inverse. Et notamment, je me suis intéressé, j'en parle dans ce livre, aux gens qui ont des petites pannes sexuelles. Hommes comme femmes, qui n'ont pas envie. Et c'est souvent, il suffit de stimuler le parasympathique, il y a des petits mouvements à faire.
Alors, vous faites la comparaison avec le chat. Vous prenez l'exemple
alors,
du
un
chat
exemple
qui se
des
dandine.
Quand un chat va avoir un rapport, il se dandine du postérieur. Eh bien, si vous dandinez, vous stimulez au niveau des dernières vertèbres S2-S4 le parasympathique. En plus, on augmente la circulation pelvienne et vous libérez ce qu'on appelle l'effet hormone. Donc à ce moment-là, c'est par des petits gestes très simples, on débloque les pannes sans médicaments et les gens ont à ce moment-là très envie de faire l'amour.
Donc on regarde son chat et on essaie de limiter ou bien non ?
Oui, là, ça serait long, on va passer deux heures là-dessus.
Bon, on va continuer.
Dans le livre,
avancer,
vous avez tous
peut-être.
Les détails.
D'accord. On va partir maintenant pour le Burkina Faso. Docteur Jean-Emmanuel Yameogo, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin généraliste en chirurgie, orthopédie, traumatologie au CHU Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou. Docteur Yameogo, vous êtes donc généraliste. Les patients viennent vous voir pour quel motif le plus souvent ?
Oui, il faut dire que les motifs les plus souvent pour lesquels les patients viennent consulter, ce sont les céphalées, les vertiges. Il y a également l'asthénie allant de la saine fatigue à la difficulté à réaliser les tâches simples de la vie courante. Qui peuvent être cotés selon la classification de la NIA, New York Heart Association. Il y a aussi la polyurie, surtout nocturne, la polydipsie. En somme, il faut dire que tous les signes fonctionnels qui rentrent dans la symptomatologie des maladies non transmissibles courantes, ils viennent pour ça.
Lorsque les gens sont malades, quel est leur premier réflexe ? Aller voir le généraliste comme vous ou le tradit praticien ?
Oh, à propos, il faut dire que les deux entités sont fréquemment consultées, au même titre, sinon les tradis thérapeutes le sont beaucoup plus, du fait du bon niveau socio-économique de la population en général. Voilà, et c'est devant l'exacerbation des symptomatologies et ou les complications engendrées d'une part par le retard à la consultation ou la médication traditionnelle que le médecin est secondairement sollicité.
Mais vous, il vous arrive de collaborer avec les tradis praticiens ?
Oui, en effet. Il existe une collaboration entre ces deux entités. Et il faut reconnaître que sur le plan administratif, il y a un décret ministériel qui a été divulgué en 2014 qui reconnaît l'Association nationale des tradis thérapeutes. Et fréquemment, des colloques sont organisés sur le plan national et même sous-régional, voire international, sur la médecine traditionnelle pour des échanges de meilleures pratiques, de bonnes pratiques, bien sûr, parce qu'il faut reconnaître les plantes également, il y en a qui soignent, vraiment.
Et ça concerne, cette collaboration, elle concerne quelles maladies, par exemple ?
Par exemple, le diabète, c'est reconnu, il y a l'hypertension, c'est reconnu, il y a les maladies rhumatismales, voilà, c'est reconnu. Il y a vraiment la panoplie de maladies non transmissibles. Et cela est aidé également par, j'allais dire, du côté scientifique, par l'école des pharmacologistes qui sont également nationales, qui encadrent bien sûr ces médicaments, ces productions.
Est-ce que la pollution a beaucoup d'effets sur la santé de vos compatriotes, docteur ?
Oui, très bien sûr. Très bien sûr, la pollution a un effet très néfaste sur la population, surtout en ces dernières années où on a une vague de changement climatique beaucoup plus notable dans nos contrées. Voilà, et il faut dire que cette pollution, elle est d'origine diverse. Voilà, elle est d'origine diverse.
Alors, quels sont vos messages de sensibilisation?
Oh, le message de sensibilisation, je dirais d'abord par rapport au problème de la pollution. Il y a, pour ce qui concerne la pollution importée, je dirais, par exemple, avec l'importation des véhicules d'occasion, voilà, il faut des lois fermes, bien sûr, pour réguler leur importation. Il y a, par exemple, les aléas de la changement climatique. Il faut y faire face avec des campagnes, par exemple, de reboisement et promulguer ou encourager les comportements éco-citoyens. Aussi, il faut que les populations consultent à temps dans une formation sanitaire en première intention en cas de maladie. Il faut qu'elles se conforment aux prescriptions médicamenteuses et hygiéno-diététiques des médecins. Il faut également la pratique régulière du sport en groupe ou seul. Il faut mettre dans nos habitudes, par exemple, la consommation des fruits et des légumes, que celle des boissons gazeuses, je dirais.
Merci beaucoup, docteur Jean-Emmanuel Yamiogo. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste au CHU Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou. Bonne journée à vous. Docteur Salman, le sport, le docteur Yamiogo en parlait à l'instant, c'est vraiment essentiel pour rester en bonne santé.
Mon collègue a vraiment raison. Je vous donnais un chiffre. Si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour, sans vous arrêter, vous baissez de 40% vos risques de cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire.
C'est fondamental de ne pas s'arrêter. Si on fait 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ça ne marche pas.
Non, parce que les 20 premières minutes, on brûle du sucre. À la 20e minute, on commence à brûler les mauvaises graisses, mais surtout, on libère 1004 molécules protectrices comme l'irisine. En fait, on se fait un cocktail, mais ce cocktail ne marche que 24 heures. Donc les gens qui me disent, vous savez, moi je fais du sport le week-end, je leur dis, vous lavez les dents que le week-end tant que vous y êtes. C'est tous les jours, c'est non négociable. C'est chaque jour, vous devez faire ça. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais j'ai pas le temps. C'est pas vrai, c'est des bobards. Et je vais vous prouver les choses. Je suis certain que tous, vous passez au moins une demi-heure par jour, téléphone, mail, SMS, écran d'internet ou télé. Eh bien, faites-le sur un simple vélo d'appartement ou bien en marchant rapidement dans la rue avec votre téléphone. On trouve ce temps, c'est un temps vital pour vous, essentiel, si vous voulez continuer à faire des vieux os en bonne santé.
Alors on va retourner au standard où nous attend Adnelly Seyni qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Adnelly.
Allô, bonjour Chantal.
Bonjour Adnelly.
Allez-y, posez votre question au docteur Salman.
Oui, bonjour docteur. Je suis un peu inquiète par ma santé il y a de cela un mois. Je ne me sentais pas bien. J'avais les maux de tête énormes. J'avais une fatigue générale, donc je suis allée voir un médecin. Et le médecin, c'était un cardiologue, donc ils m'ont pris la tension. Et ma tension était élevée à 22-11. Et de toute ma vie, je n'ai jamais fait de la tension artérielle. Et subitement, j'avais la tension qui était à 22-11.
Et que, que vous a dit le médecin alors par rapport à cette tension élevée?
Ouais, il m'a dit que je fais de la tension artérielle et comme je n'avais jamais fait de la tension, donc il m'a mis sous un traitement. Pas le traitement de la tension, mais il m'avait mis sous l'exomine.
Et c'est redescendu la tension?
Oui, maintenant c'est pas vraiment redescendant, c'est entre 15 et 14.
Ce qui compte, c'est le deuxième chiffre qui est très important.
Le deuxième chiffre de 15.
Oui, c'est-à-dire que par exemple, si on vous dit que vous avez 14, 8, 13, 7, c'est en fait le deuxième chiffre.
Non.
Vous ne l'avez pas en mémoire.
Non, c'est à 15, 14, oui, c'est pas arrivé à 13.
En tous les cas, vous avez raison de suivre les conseils de votre médecin, parce que l'hypertension artérielle est une maladie redoutable qui peut donner lieu à des accidents cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Il faut contrôler la tension régulièrement. Alors, il y a des mesures qui aident à baisser la tension, c'est de manger le moins salé possible, je vous rappelle que le sel augmente la tension artérielle.
Merci beaucoup Adnelly de nous avoir appelé. J'ai une question qui n'a rien à voir, docteur Salman. Le mal de dos, on a dit mal de dos, mal du siècle. Il faut réapprendre l'art de se redresser. Pourquoi ?
Oui, parce que vous voyez, quand on a mal au dos, ça cache la vie. Mais si vous prenez l'habitude de vous tenir droit, psychologiquement vous êtes mieux. Cérébralement, on s'aperçoit que les gens qui se tiennent bien droit ont une activité cérébrale plus rapide et ils ont bien moins mal au dos.
Et le fait de rester droit oxygène aussi donc le
oui,
cerveau.
Oui, beaucoup mieux.
Donc on peut donner un conseil aux élèves qui préparent un examen, ne révisez pas dans votre lit.
Avachi, pas avachi.
Voilà. On va retourner au standard, prendre Marius. Marius, bonjour.
Bonjour Chantal.
Bonjour Marius.
Alors, vous nous appelez de Ouagadougou. Marius, on vous écoute.
Ok, j'avais trois questions à poser.
Alors, on commence par la première.
Voilà, comment faire pour éviter le diabète ? Et la deuxième question, quelle est la place du sport dans la prévention contre le diabète ? Bon, moi, je marche 4 heures par semaine. J'aimerais savoir si c'est suffisant ou c'est peu. Et la troisième question... Et comment manger équilibré pour éviter le diabète ? Parce que généralement, chez nous en Afrique, les plats de base, c'est le riz, c'est le thon. Voilà, c'est pas...
Vous savez, une des premières choses essentielles, c'est l'activité physique. Parce que si vous, ce que vous faites actuellement 4 heures par semaine, c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Plus vous marchez, si vous faites par exemple ne serait-ce qu'une heure par jour, vous brûlerez du sucre en excès et vous baisserez naturellement votre sucre dans le sang. Une heure de marche rapide par jour, c'est déjà un excellent médicament. Au niveau de l'alimentation, si vous pouvez prendre moins de riz et plus de légumes, ah, c'est vraiment très bien. Sauter les desserts, c'est pas nécessaire. Vous savez, vous trouverez les vitamines dans les légumes, il n'y a pas de souci. Mais le dessert de prendre du sucre, eh ben c'est pas bon. Vous avez aujourd'hui un enfant de 7 ans à consommer autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Et puis je vous demande un petit truc. Si vous avez l'habitude de mettre du sucre dans votre thé ou votre café, forcez-vous pendant 3 semaines à ne pas en mettre.
Et on s'habitue
Au bout de 3 semaines, quand vous aurez pris l'habitude, au niveau du cerveau, votre seuil sucré aura changé. Et quand quelqu'un vous mettra du sucre pour vous faire plaisir, vous ne pourrez plus jamais boire ce café ou ce thé, vous le trouverez écœurant.
Merci Marius, bonne journée à Ouagadougou. Salman, vous donnez une autre astuce, coupe faim, avaler un grand verre d'eau glacée avant de se mettre à table.
Oui, baisser son poids, c'est essentiel si on veut être en bonne santé. Il y a des dizaines de coupe faim naturels puissants qui marchent du tonnerre. Alors, on n'a pas le temps, je vous en donne un. Vous m'en citez un parmi ces...
Et vous avez aussi la poudre magique.
Ah, il y en a plein, plein, plein. Alors, en fait, quand on prend un verre d'eau glacée avant le repas, on anesthésie le nerf vagal postérieur, c'est le nerf de la faim. L'estomac se contracte et c'est un coupe-faim naturel, puissant, immédiat. Vous pouvez aussi utiliser, fabriquer vos coupe-faim maison. Prenez un peu de levure de boulanger, mettez-le dans, tout simplement... Dans, ça gonfle dans l'estomac, ça fait comme les gens qui prennent des ballons. Et vous pouvez le mettre d'ailleurs dans un lait anti-reflux pour bébé, parce que ces laits contiennent de la caroube qui gonfle aussi. Les deux ensemble, alors je peux vous dire, vous prenez l'équivalent de la taille d'un yaourt préparé avec ce lait anti-reflux et de la poudre de boulanger, alors là on ne mange pas de la journée. Il y en a plein comme ça.
Et alors, il y a aussi les aliments d'Odane pour freiner ceux qui mangent à toute vitesse, parce que c'est pas bon de manger vite.
Plus on mange vite, plus on mange beaucoup. Donc, si vous prenez, par exemple, vos pâtes ou vos riz al dente, vous mâchez, on mange moins vite. La partie fibreuse de l'ananas, c'est pareil. Tout ce qui est long à mâcher freine et vous permet de reprendre la main.
On va retourner au standard où nous appelle, où nous attend Oumar, qui nous appelle du Sénégal. Oumar, bonjour.
Bonjour, bonjour Chantal.
Bonjour Oumar.
Alors Oumar, on vous
bonjour,
écoute.
Bonjour Chantal, vous allez bien ?
Ah, on va très très bien. Et vous ? Je crois que vous bonjour, avez un petit problème au genou, hein, c'est ça ?
Oui, oui.
Alors racontez-nous.
Bon, moi, je suis un ancien sportif. Mais ma question est la suivante. Moi, je faisais du sport, j'étais un ancien footballeur. Maintenant, j'ai raccroché les crampons. Et je demande au docteur si je dois continuer obligatoirement à faire du sport ou bien. Parce que quand je ne fais pas du sport, j'ai la paresse et puis je ne mange pas très bien. Et ensuite, j'ai des douleurs au niveau des jambes. Je lui demande conseil pour si je dois continuer absolument à faire du sport ou non.
Il faut continuer à faire du sport, mais peut-être parfois changer de sport. Si vous en avez la possibilité, l'idéal par rapport à ce que vous me décrivez, c'est de faire une heure de natation tous les jours. Si vous habitez et que dans votre ville il y a une piscine ou qu'il y a la mer, allez-y. La natation préserve toutes vos articulations et vous donnera tous les bénéfices du sport.
Vous habitez au bord de la mer, Oumar ?
Non, j'habite au bord de Maïgo.
Est-ce qu'il y a une piscine ?
Le fleuve Sénégal, ici à Richardson.
Et est-ce qu'il y a une piscine à proximité de chez vous ?
Non, pas de piscine, mais il y a un canal.
Et vous pouvez nager dans le canal ?
Bien sûr, bien sûr.
Alors voilà. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous suivez les conseils du docteur Salman. Bonne journée Oumar, merci.
Bonne journée.
De nous avoir appelé. Yacine nous demande sur Facebook, il a une question concernant le jus de citron. Quels sont ses effets ? Certains disent que boire du jus de citron le matin est bénéfique, que ça permet de nettoyer le sang. Vrai ou faux ?
Non, le citron, c'est bien en ce sens que c'est plein de vitamine C. C'est une bonne chose. Ça permet d'accélérer un petit peu la digestion. Mais ça nettoie pas le sang, non.
Docteur Salman, dans votre livre, vous dites qu'un certain sens de l'humour augmente de 7 ans l'espérance de vie. Alors d'abord, quel sens de l'humour et pourquoi ça augmente l'espérance de vie ?
Le sens de l'humour, le fait de rire, d'être joyeux, ça augmente l'espérance de vie. On s'en est aperçu, c'est grâce à un prix Nobel en 2009 qui a découvert les télomères. Vous savez, ces petits manchons qu'on a au bout des chromosomes, plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. Plus ils sont courts, plus on meurt rapidement. Eh bien, quand les gens ont de l'humour, sont heureux, s'amusent, ils ont des télomères beaucoup plus longs. Ça joue directement sur la longévité en bonne santé.
Docteur Salman, on va peut-être prendre un autre auditeur au standard. Non, pas d'autre auditeur au standard. Manger du poisson, éviter les repas riches en graisse, en sucre, en alcool, vivre entouré, rester jeune dans sa tête. C'est ça le secret pour bien vieillir.
Vous savez, pour bien vieillir, il faut ne pas vieillir. Je m'explique. Moi, je considère que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Donc, le principe, c'est l'inverse de ce qu'on pense, c'est de rester en mouvement. Vous savez, en 3 semaines de vacances, on perd déjà 20 points de quotient intellectuel. Si je plate vos 2 jambes pendant 2 mois pour qu'elles se reposent, vous tombez par terre quand je casse le plat, il n'y a plus de muscles. Ce qui nous maintient en forme, on est comme des montres automatiques, on se recharge dans le mouvement. Einstein le disait, la vie c'est comme la bicyclette, on arrête de pédaler, on tombe. Donc en permanence, il faut faire des choses nouvelles. Vous savez, on pensait avant qu'on naissait avec un stock de neurones, on vieillit, on devient gâteux à la fin. Ben, c'est pas vrai. Parce que si aujourd'hui, on nous fait un IRM pour mesurer notre cerveau, si on apprend à jongler pendant 3 mois, 3 mois plus tard, une zone du cerveau s'est formée, si on fait des choses nouvelles tout le temps, on augmente sa capacité et on ne vieillit pas au niveau cérébral.
Merci beaucoup, Dr. Salman, pour ces précieux conseils. Merci d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Je rappelle que votre nouveau livre, Vital, votre Bible santé, vient de paraître chez Albin Michel.
Priorité santé sur RFI.
C'est aujourd'hui la 23e journée nationale de la prévention du suicide. En France, 200 000 tentatives de suicide ont lieu chaque année. 10 000 ont une issue fatale. On comptabilise en moyenne 25 décès par jour, par suicide. C'est devenu un problème de santé publique. Docteur Marc Filâtre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et président de l'UNPS, l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide. Est-ce que les chiffres que je viens de donner sont stables ou est-ce qu'ils progressent ?
Disons qu'ils ont plutôt tendance à, ils ont eu tendance à diminuer pendant longtemps. Pour l'instant, c'est toujours le cas, avec des petites inflexions. Mais par contre, il n'y a pas forcément de raison d'être optimiste pour la suite. Mais pour l'instant, voilà.
Est-ce que le suicide en France reste un sujet tabou ?
Ah oui, tout à fait. Il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été faits, mais en fait, globalement, il y a encore beaucoup de choses à faire et le tabou du suicide est toujours extrêmement présent à tous les niveaux de la société.
Est-ce que ça veut dire qu'on ne prend pas la mesure de la détresse des gens qui vont passer à l'acte ?
Malheureusement, toujours pas. Encore une fois, malgré les travaux qui ont été faits par un certain nombre, hein, mais on est toujours dans des chiffres qui sont bien au-dessus de ce qui pourrait être.
Quelle est la tranche d'âge la plus touchée, la plus vulnérable ?
Ben, ça dépend si on raisonne en nombre de personnes ou en pourcentage. Si c'est en nombre de personnes, c'est les gens en âge de travailler, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Et si c'est en pourcentage, ce sont les personnes âgées. Et puis après, les plus jeunes.
Quels sont les besoins des professionnels et des bénévoles qui sont les premiers acteurs de la prévention pour lutter plus efficacement contre les violences qui pourraient mener à un suicide ?
Ben le travail, en fait, la prophylaxie des passagers à l'acte suicidaire, elle est depuis la petite enfance, c'est-à-dire dès l'accompagnement des parents qui s'occupent de leurs enfants. Donc on met dès ces mesures qui concernent les parents, il y a les mesures aussi qui concernent les enfants sur la capacité à faire face aux situations. Et puis après, dans des situations un peu plus critiques, il faut évidemment que les personnes, que ce soit les proches, que ce soit les professionnels, soient eux-mêmes tous accompagnés à pouvoir faire une prise en charge correcte jusqu'au bout. Ce qui ne veut pas dire que chaque personne doit aller jusqu'au bout de la prise en charge, bien évidemment, mais que les relais soient connus, soient clairs et accessibles.
Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide.
Tout à fait. Il ne faut pas déjà hésiter à discuter ensemble sur des situations qui nous préoccupent. Là, c'est surtout valable pour les gens qui ne sont pas des professionnels, mais c'est aussi valable pour les professionnels. Et puis après, effectivement, il ne faut pas hésiter à discuter avec les personnes qui sont concernées.
Merci beaucoup, docteur Marc Filâtre. Je rappelle que vous êtes psychiatre et président de l'Union nationale pour la prévention du suicide. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Cetou Samaké, Juliette Brault et Louise Calédec qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Didier Bleu qui l'a réalisée avec Laurent Hérault pour les appels au standard. Demain, nous parlerons des mutilations sexuelles génitales féminines et de la chirurgie réparatrice à l'occasion de la journée mondiale contre l'excision. Si vous voulez poser des questions ou témoigner, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique Émissions. À demain et portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.